franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre et bonjour à tous. C'est certainement le mot que nous entendons le plus tout au long de notre vie. Je veux parler de notre prénom. Patricia, vous venez de me dire bonjour Frédéric. Je vous ai répondu bonjour Patricia. J'aurais pu vous dire bonjour Madame Martin, mais non, à la radio on s'appelle par son prénom, c'est plus convivial. Du reste, c'est devenu ces derniers temps la norme dans à peu près tous les milieux professionnels, dans le monde de l'entreprise comme dans celui de l'enseignement. L'usage tend à délaisser le patronyme au profit du prénom. D'ailleurs, c'est également le cas dans les commerces. On ne compte plus les boulangeries, les boucheries, les bars et autres salons de coiffure qui, sur leur enseigne, donnent à lire les prénoms. Ou bien les prénoms, oui, le prénom, ou bien les prénoms des patrons chez Corinne, chez Roger, chez Chantal et Denis. Mais il y a des personnes qui n'aiment pas leur prénom Patricia. Et certaines, dans ce cas-là, décident parfois d'en changer, ainsi que le raconte Bernadette Costa-Prat dans le mensuel féminin femme majuscule. Elle raconte le parcours de ces femmes qui un jour ont décidé de se faire appeler autrement. C'est l'histoire de Martine, qui à l'âge de 20 ans a décidé de se rebaptiser Nathalie. Aussitôt confie-t-elle, je me suis sentie renaître. Sous le nom de Martine, j'étais ratatinée. Sous celui de Nathalie, je me suis déployée. Même phénomène pour Monique, qui elle a décidé de se rebaptiser Sabine. Quant à Anne-Marie, elle a choisi à 40 ans de se transformer en Marianne. Je travaille, dit-elle, dans la communication, un milieu qui a le culte du jeunisme. Anne-Marie, ça ne faisait pas assez brancher. Parfois donc, lorsqu'on change de prénom, c'est parce qu'on trouve qu'il est simplement trop daté, qu'il révèle notre appartenance à une génération, mais on peut également le trouver trop marqué socialement. C'est ainsi que Vanessa a choisi de s'appeler Marie quand elle est devenue avocate. Il y a d'ailleurs fort à parier, note malicieusement ma consoeur, qu'un certain nombre de Kevin feront de même quand ils graviront l'échelle sociale, mais l'inverse est aussi vrai, comme en témoigne Hermine, prénom très aristocratique, laquelle a choisi de se faire appeler Hélène, lorsqu'elle est devenue assistante sociale. Le prénom est comme un vêtement qui dit aussitôt quelque chose de nous, commente le psychanalyste Patrick Avran dans le magazine. On peut avoir l'impression qu'il est trop petit, trop grand, en somme, mal ajusté à notre personnalité. Lorsqu'on en change, poursuit-il, on veut donner une autre image de soi. Au fond, c'est une façon de se réinventer. Nicola réussira-t-il à se réinventer? Lui aussi, depuis plusieurs mois, tente de donner une autre image de lui-même, même s'il n'a pas changé de prénom.
Là, Frédéric, le Nicolas dont vous parlez, je pense que c'est Nicolas Sarkozy, lequel sera ce week-end au Touquet, en visite sur le campus des jeunes du parti Les Républicains.
Et pour l'occasion, Libération est allé rencontrer les fans de l'ancien président, les fans de Nicolas, ce noyau dur de militants sur lequel il mise pour s'imposer dans la primaire en vue de la présidentielle. Rencontre donc avec Robert, 46 ans, employé administratif. Sarkozy, explique-t-il, a un charisme naturel et en 5 ans à l'Élysée, il s'est montré tout à la fois très réactif et dynamique. Rencontre avec Anthony, 26 ans, professeur de taekwondo. Il est le seul capable de redresser le pays. Du reste, Nicolas Sarkozy, avec plus ou moins d'impudeur, n'hésite jamais à célébrer lui-même ses qualités de leader. En privé, il ironise sur Papy Juppé et sur l'autre eunuque de Fillon, comme le rapporte cette semaine le Canard enchaîné. Cette semaine, l'enquête Ipsos pour Le Point a pourtant de quoi l'inquiéter, Nicolas. Parmi les sondés qui se disent certains de voter à la primaire, Juppé l'emporte au premier tour, et davantage encore au second. Mais ce matin, le Figaro nous donne une toute autre estimation. Certes, Juppé apparaît encore comme le préféré pour le second tour, mais d'après cette enquête réalisée par l'IFOP, c'est Sarkozy qui arriverait en tête au premier. Commentaire de Jérôme Fourquet, le directeur de l'Institut, le match est encore loin d'être joué. D'ailleurs, à propos de Juppé, à propos d'Alain, les proches de Nicolas évoquent un simple effet de mode, ainsi Brice, hortefeux dans les colonnes de l'IP. Juppé, c'est une mode, et comme disait Coco Chanel, la mode, c'est ce qui se démode, et puis il ajoute, ce qui compte, c'est d'être le vainqueur, pas le favori. Dans Libération, il y a donc ce reportage chez les fans de Nicolas, et dans Le Parisien, un reportage chez ceux qui continuent de militer au Parti communiste.
Un reportage à l'occasion de la fête de l'humanité, et le titre c'est « Communiste malgré tout ».
En l'occurrence, malgré la concurrence de l'extrême droite, malgré la concurrence de l'extrême gauche, et malgré les pronostics pessimistes des politologues qui considèrent que le PC est voué à un déclin inéluctable. Cependant, et n'en déplaise à François Hollande, qui quelques mois avant son accession à l'Élysée lançait au quotidien britannique The Guardian « Aujourd'hui, il n'y a plus de communistes en France », cependant, donc, il reste des communistes en France, et même ils sont assez nombreux, si l'on en juge par le nombre d'adhérents que revendique le parti. 120 000, soit davantage que le Parti Socialiste ou le Front National. Et ce sont là des militants bien réels. Note Frédéric Vézard dans son édito, des militants irréductibles et suffisamment portés par leurs convictions pour affronter les vents contraires de l'histoire. Néanmoins, mon confrère souligne la chute vertigineuse du nombre de ses électeurs. Sa conclusion est sévère pour lui. Le Parti communiste ne sait plus parler aux Français et il est devenu une force politique en trompe-l'œil, une image du passé que l'on observe au choix avec ironie ou nostalgie. Nostalgie chez Michel, notamment, 85 ans, militant communiste depuis 1947. Il confie qu'il ne va plus aux réunions de sa section. « Ça m'emmerde », dit-il. D'ailleurs, il y en a de moins en moins. Ses rêves, bien sûr, sont toujours intacts. Un monde sans armes, un monde sans guerre, un monde avec plus de justice. Pas facile d'y arriver, d'autant qu'au parti, précise-t-il, on est quand même un peu faiblard au niveau des idées.
Un autre Michel continue ce matin de faire parler de lui dans les journaux.
Il n'a toujours pas changé de prénom. Oui, Michel Combes, ex-patron d'Alcatel-Lucent, le groupe de télécom, qui a finalement décidé de réduire de près de moitié ses primes de départ, soit 8 millions d'euros au lieu des 14 prévus au départ. Ce qui, pour un homme seul, fait encore beaucoup, note Laurent Baudin dans l'Alsace, d'autant que 3 millions lui seront versés au titre d'une clause de non-concurrence d'une durée de 40 mois. En somme, une moyenne mensuelle de 77 500 euros, pas mal pour un homme qui a déjà réussi à se recaser ailleurs. L'interrogation essentielle étant évidemment, qu'a-t-il donc fait pour mériter autant d'argent, s'interroge Pascal Coqui dans les dernières nouvelles d'Alsace. Qu'a-t-il fait, mis à part licencier massivement 10 000 suppressions de postes pendant son mandat? À la rubrique « Départ et gros sous », on notera également ce matin le billet d'Anne Sinclair sur le Huffington Post « Plus jamais le dimanche ». C'est un hommage à sa consœur Claire Chazal, qui présentera demain son tout dernier 20h sur TF1. Nous serons tous un peu nostalgique, écrit-elle, quand Claire Chazal dira au revoir. Elle rythmait les week-ends, sa blondeur et sa grâce nous disaient que c'en était fini de la douceur des fins de semaine. C'est joliment écrit, mais c'est également cinglant. Quitter une fonction prestigieuse à la télé qu'on a exercée longtemps n'est pas un drame, dit-elle. Quand des tas de gens ont aujourd'hui une existence précaire et l'anxiété du lendemain, les stars des médias sont des privilégiés et elles ne le savent pas toujours, ce n'est pas une raison pour les maltraiter. TF1 a perdu son lustre, sa suprématie, beaucoup de ses téléspectateurs, mais les journaux de Claire, moins que d'autres, cassent d'une chaîne qui se sent menacée. Brutalité des médias, brutalité d'une maison qui ne s'est jamais encombrée d'élégance, brutalité d'une annonce qu'aucune conversation sérieuse ne lui avait laissé prévoir, brutalité d'un départ précipité. Départ précipité, c'est également le lot des milliers de réfugiés arrivés en Europe ces dernières semaines et c'est évidemment nettement plus grave. Comme chaque jour, les journaux font le point sur le dossier auquel le 1 consacre même tout son numéro. Que faire, demande l'hebdomadaire dans lequel vous pourrez lire un texte magnifique de Laurent Godet. Le texte s'appelle « Regardez-les, regardez-les, ces hommes et ces femmes qui marchent dans la nuit. Ils avancent en colonne sur une route qui leur esquinte la vie. Ils ont le dos voûté par la peur d'être pris et dans leur tête, toujours, le brouhaha des pays incendiés. La colonne s'approche et ce qu'elle désigne en silence, c'est l'endroit où la vie vaut d'être vécue. Il y a des mots que nous apprendrons de leur bouche, des joies que nous trouverons dans leurs yeux. Regardez-les, ils ne nous prennent rien lorsqu'ils ouvrent les mains. Ce n'est pas pour supplier, c'est pour nous offrir le rêve d'Europe que nous avons oublié.
Le rêve d'Europe que nous avons oublié, oui. Dans la presse ce matin, on nous parle aussi de Jérémy.
Jérémy Corbyn, celui qui devrait aujourd'hui être élu à la tête du Labour en Grande-Bretagne, un socialiste pur et dur, explique le Parisien. Tandis que le Figaro évoque un homme de la gauche, tendance Syriza. Enfin, j'ai noté cette info sur Laurent. Laurent, notre ministre des Affaires étrangères, c'est dans les pages de Challenge. Lors d'un aparté pré-conseil ministériel à l'Élysée, Laurent Fabius a confié à ses collègues Bernard Cazeneuve et Michel Sapin, interloqués, que sa radio préférée était Rire et Chanson. Il faut l'écouter pour le rock ainsi que pour les humoristes et les impostures de Jean-Yves Lafesse. Ça détend. Vous connaissez celle du passage du chef de gare de Monaco? Et de se lancer, les chauves ont souri de concert. Fabius aime donc la fesse et la programmation de Rire et Chanson. Qui sait, on apprendra peut-être dans les jours qui viennent que France Culture est la radio préférée de Monsieur Ribéry ou de Madame Morano. Bonne journée.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.